Cadeau.
Dans ce journal local, on parle de santé avec ses soignants qui demandent des moyens humains. On suit aussi la grève dans le secteur pétrolier. Et puis en fin d'édition, on vous parle de sport. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous.
On parle de santé avec cette question, quel levier pour éviter la pénurie de soignants?
Cette question qui part des professionnels du secteur, ils ont ces dernières semaines appelé à l'aide en raison du manque de moyens humains, avec notamment un communiqué du syndicat du personnel du centre hospitalier du Taonnais, où le turnover des professionnels est toujours plus grand et où l'attractivité fait défaut, c'est ce qu'expliquent les professionnels. Alors cette inquiétude, le ministre de la Santé ne l'ignore pas, mais difficile d'après Cédric Mercadal, de parler aujourd'hui de réelle pénurie de soignants sur le territoire. Chiffre à l'appui, puisque au 26 novembre, la direction de la santé recensait 1134 postes ouverts et 1107 sur ces 1134 étaient pourvus. 40 autres doivent être créés dans les mois à venir. Mais Cédric Mercadal reconnaît que la situation pourrait devenir critique dans les 10 années à venir si rien n'est fait. Alors au-delà du problème d'attractivité, c'est la fidélisation des professionnels qui fait défaut, estime-t-il. Le membre du gouvernement explique avoir fixé avec ses équipes plusieurs objectifs pour éviter que la situation ne dérape.
Il y a une politique d'attractivité qui va être mise en œuvre au niveau du pays, qui va tourner autour de trois axes. D'une part, la création de postes vers les îles actuellement pour pouvoir soulager l'ensemble des équipes soignantes. Et c'est ce que l'on a fait dans le cadre du budget cette année. C'est important, ça va venir soutenir au niveau de la direction de la santé, mais au niveau des îles, toute une population médicale qui avait du mal.
Un budget qui a été étudié les 13 et 14 décembre à Tarahoy. Et parmi les évolutions attendues, un programme de construction de logements de santé. Il a été validé aux Marquises à hauteur de 60 millions de francs. Il est aussi de 25 millions aux Australes.
La deuxième partie, ça sera la formation. C'est permettre aux gens de se former tout au long de leur vie. Quand on commence infirmier, aide-soignant, on peut aussi voir sa carrière se développer. Quand on est médecin, on doit pouvoir se former tout au long de sa carrière, tout comme les infirmiers, tout comme les kinés. Et ça sera dans le cadre de l'évolution de l'Institut Mathilde Frémaux, qui demain sera un institut de formation médicale.
Un recensement est d'ailleurs en cours pour redimensionner cet institut médico-social Mathilde Frémaux au regard des besoins des 10 prochaines années. Et côté formation, il y en aura des besoins. Depuis 2004, 140 étudiants polynésiens sont partis pour suivre des études de médecine.
La troisième chose, c'est aussi fidéliser les gens au poste et donc travailler avec eux pour améliorer leurs conditions de travail, améliorer leurs conditions de vie dans leur travail. C'est sur ça qu'on est en train de travailler actuellement, parce que les difficultés que l'on rencontre dans le recrutement et dans la fidélisation de nos professionnels, parce que la difficulté est dans cette fidélisation, elles doivent être prises en compte de manière globale.
Voilà Cédric Mercadal, le ministre de la Santé, qui répondait à Delphine Barret. Un séminaire intergouvernemental est prévu en janvier pour réunir les différents acteurs. L'objectif sera de travailler donc sur la politique d'attractivité, sur les délais de recrutement aussi. Il sera également question de la réforme du statut des médecins pour laquelle les travaux ont démarré depuis déjà plusieurs mois. Le ministre ajoute vouloir revoir le conventionnement pour valoriser celles et ceux, dit-il, qui s'impliquent sur le territoire en allant travailler dans les îles.
Les grévistes du secteur pétrolier réagissent après une plainte.
Oui, une plainte contre X déposée par la société STDO, qui est une des boîtes de gestion des dépôts de carburant. Alors que la CSIP est en grève depuis maintenant une semaine dans trois sociétés, la STDO donc, mais aussi la STDP et la Somstat, eh bien du vol de matériel et un déboulonnement sur le réseau de pipeline ont été constatés lors du déchargement d'un pétrolier. On vous en parlait hier. Le syndicaliste Cyril Le Gaillic nous a expliqué hier également que ces plaintes contre X avaient fait rire les militants au piquet de grève installé devant le centre de stockage. D'après lui, les difficultés de déchargement de ce pétrolier sont dues au manque de personnel du fait du mouvement, mais rien de plus.
Les salariés grévistes, avant l'arrivée du pétrolier, la veille, préparent tous les tuyaux, tout ce qui est partie flexible, tout ça pour recevoir les produits pétroliers. Mais là, comme la grève a démarré jeudi, donc 72 heures avant, ils n'ont pas eu le temps de préparer tout ça, et c'est pour ça qu'ils accusent. Et quel vol de matériel? Ben, qu'ils citent le matériel qui a été volé. C'est trop vague. Donc ils veulent mettre la pression sur les grévistes pour dire, bon, voilà, on dépose plainte, tout ça, bon, réfléchissez, revenez, reprenez le travail, c'est un peu ça.
Voilà Cyril Le Gaillic et les grévistes de la CSIP qui se disent sereins et prêts à continuer le mouvement. Mouvement qui demande avant tout des revalorisations de primes et de salaires, mais aussi des embauches, comme le précise le syndicat.
Depuis 2021-2022, et il y aura à la fin de 2023 des départs à la retraite, des agents qui ont été licenciés. Ils sont sous-effectifs et on leur demande la même chose que s'ils étaient, par exemple, la société STDO. Ils doivent être une 24, tout ça. Aujourd'hui, ils sont à peine 13. Faut pas demander le Hercule pour faire du travail et tout ça.
Cyril Le Gaillic, il est au micro de Charles Irénée et il s'interroge au passage sur les coûts pour Total et Pétropole du maintien à quai du fameux pétrolier pendant 5 jours au lieu de 2. Alors le prochain ravitaillement de ce genre, ce devrait être fin janvier. Et si la direction ne veut pas avancer dans les discussions d'ici là, le piquet sera toujours en place, c'est ce que disent les militants.
On revient à Val-de-Marne sur ce fait divers à Faa.
Oui, comme relevé hier par nos confrères de Polynésie la Première, une jeune fille de 15 ans s'est tuée alors qu'elle conduisait une mobylette électrique dans la nuit de mercredi à jeudi. D'après nos informations, l'accident s'est produit vers 2h30 du matin face au magasin Tahiti Glass au niveau de Pamatei. La jeune fille qui portait son casque circulait en direction de Punaouia. Elle a subitement perdu le contrôle de son deux roues. Alors dans un premier temps, elle a frotté un trottoir sur plusieurs mètres avant d'être projetée contre un poteau en béton. Malgré les soins prodigués par les secours, la conductrice est décédée sur place. Des prélèvements sanguins ont été réalisés. Il s'agit du 31e accident mortel de 2023 dans la zone gendarmerie.
Il est 7h06, on va faire un petit peu de sport avec le pôle de combat de Punaouia qui prend forme.
Oui, depuis la pose de la première pierre, c'était en septembre 2022, eh bien les travaux ont bien avancé et on devine désormais l'apparence générale de l'édifice. Alors à ce jour, il y a déjà 4 niveaux qui ont été édifiés. Le bâtiment comprendra donc 4 espaces d'entraînement, 228 mètres carrés chacun. Ils sont répartis sur 2 étages et surplombés par une mezzanine destinée aux spectateurs. On y retrouvera donc un dojo, une salle de boxe avec 2 rings, une salle de MMA avec un octogone, mais aussi un espace de musculation pour la préparation physique. Ce projet est inédit au Fénois. Il était déjà envisagé sous la mandature d'Edouard Fritsch et il s'inscrit de base dans la perspective des Jeux du Pacifique, notamment pour la boxe anglaise. Mais pour Aritea Bernardino, le directeur de l'IJSPF, il s'agit d'une stratégie plus globale.
Ça rentre dans une dynamique de construction, mais pas seulement à l'échelle locale. Je pense que nos Polynésiens peuvent briller à l'échelle locale, régionale pour les Jeux du Pacifique, mais aussi à l'international, parce qu'on a vraiment des qualités. Si on reprend des anciens noms des grands boxeurs, il me semble, il y avait la famille Apeong, la famille Nena, avec Mako qui est allé très loin, qui a été champion d'Europe, il me semble, de mémoire. Donc c'est pour ça qu'on a misé sur ces disciplines qui permettraient de faire rayonner non seulement nos sportifs polynésiens, mais aussi la Polynésie française au travers du sport.
Et pour Aritea Bernardino, cette opération doit aussi permettre aux jeunes d'avoir accès à des infrastructures de qualité. Ce pôle devrait, selon lui, pouvoir couvrir les besoins d'une zone s'étalant sur un périmètre de 20 km vers Faa, mais aussi vers Paea. La jeunesse devra toutefois, pour espérer pouvoir en profiter, être adhérent au club affilié aux fédérations délégataires de services publics. Et ça n'est pas toujours gagné en ce qui concerne les sports de combat.
On ne va pas pouvoir satisfaire l'ensemble des demandes des clubs sportifs qui sont affiliés aux fédérations. Donc c'est à la fédération de vraiment s'organiser dans sa gestion avec ses clubs. Pour autant, l'idée de cette structure, c'est de montrer que ça fonctionne pour pouvoir peut-être par la suite dupliquer ses équipements sportifs. Parce qu'on ne pourra pas satisfaire toutes les populations. Après, le pays peut faire des équipements structurants, mais les municipalités aussi ont la possibilité de le faire.
Aritea Bernardino au micro de Vaitiare Perer. A noter dans ce dossier que l'ancien gouvernement envisageait la construction de 2 autres édifices du genre vers Pire et Taravao. Alors celui de Taravao faisait d'ailleurs partie encore des projets maintenus par le gouvernement Brotherson, c'est ce que dit le directeur de la jeunesse. Mais chaque chose en son temps, d'abord celui de Punaouia, il devrait être livré pour les prochaines fêtes.
Sport toujours, on vous présente le nouveau président de la Fédération Tahitienne de Surf.
Et oui, Max Vasna, il est depuis une semaine le nouveau grand capitaine de la Fédération. Une passation dans un moment crucial, à un peu plus de 6 mois des Jeux Olympiques, en pleine polémique sur la tour des juges. Mais qu'importe, pour le président et cofondateur du Tahiti Surf Club, il compte bien poursuivre le travail de son prédécesseur Lionel Teihotu qui tenait les rênes de la Fédé depuis 2015. Sa feuille de route n'est pas encore couchée sur le papier, elle doit être travaillée avec le bureau de la Fédé. Mais les premières priorités sont imposées par le calendrier. L'organisation des Jeux, donc, un sujet sur lequel il n'avait pas souhaité s'exprimer publiquement avant l'élection. Il invite désormais à continuer de travailler de concert avec le pays et le comité d'organisation. Il salue aussi le consensus trouvé sur l'épineux dossier de la Tour, un dossier qui est aussi lié à un autre défi de taille pour la fédération, conserver et développer les liens tissés avec la WSL.
Je suis acteur de l'événement depuis 20 ans déjà. Je m'occupe pas mal de toute la partie sécurité sur le plan d'eau. Et c'est ce que je fais jusqu'à présent d'ailleurs. Donc, je connais assez bien la WSL. Et d'ailleurs, de la Villa Bancoro déjà, et maintenant la WSL. On va continuer à travailler ensemble. Et d'ailleurs, avec Pascal Sani aussi, qui est le référent de WSL. On se connaît très bien. Et on va dans le sens de développer encore plus notre sport. Et d'avoir la chance de continuer d'avoir une étape du championnat du monde ici à Tahiti, qui est incroyable.
Et pour le nouveau président de la fédération, les Jeux Olympiques, comme la Tahiti Pro d'ailleurs, n'ont qu'un seul objectif, pousser vers l'avant le surf local. Aujourd'hui, la fédération regroupe 20 clubs et compte 400 licenciés dans ses rangs, loin de ce que représente réellement la glisse au Fénois.
On a à peu près, on comptabilise peut-être jusqu'à 3 000 ou voire 4 000 free surfers. C'est ça qu'il faut essayer d'avoir pour qu'ils puissent se licencier. Et c'est ça le message à faire passer, parce que une fois qu'ils sont licenciés, ils bénéficient d'une assurance, d'une couverture d'assurance qui leur permet, s'ils se blessent, d'être couverts. Donc c'est pour ça qu'on essaie de convaincre tous ces free surfers que quand tu es licencié, tu peux ne pas faire de compétition. Mais au moins, ils sont couverts. Et ils sont entre guillemets, répertoriés à la fédération.
Et d'autres projets sont dans les tuyaux du côté de la préservation environnementale des spots de surf, du développement du handisport, de la formation et bien sûr de la sélection et de l'accompagnement de nouveaux talents. Max Vasna, qui arrive à la tête de la fédération avec une équipe entièrement renouvelée, l'assure. Il va continuer à travailler avec Lionel Teihotu et les anciens membres du Conseil fédéral. Le surf, c'est avant tout une famille. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 7h30 pour votre revue de presse d'actualité locale.